VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. L'ultime super mardi des primaires pour la présidentielle américaine a démarré aujourd'hui dans l'État du New Jersey. Dernier grand rendez-vous dans la course à la Maison-Blanche qui doit consacrer la victoire de la candidate démocrate Hillary Clinton, donnée gagnante la nuit dernière, Jean-Jacques Aristide.
Quelques heures avant l'ouverture du scrutin, plusieurs médias américains avaient annoncé qu'Hillary Clinton a passé la barre du nombre de délégués lui assurant de devenir la première femme à briguer la Maison-Blanche pour le Parti démocrate. C'est dans ce contexte que les électeurs du New Jersey, dans l'est des États-Unis, ont commencé à se rendre aux urnes. 5 autres États doivent se prononcer ce mardi: Californie, Nouveau-Mexique, Montana, Dakota du Sud et du Nord. La candidate démocrate n'a pour autant pas crié victoire, craignant une démobilisation de ses partisans. Elle espère remporter une victoire symbolique face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui a lui immédiatement dénoncé la précipitation médiatique, affirmant que sa rivale ne pourrait pas revendiquer de victoire avant la convention d'investiture de Philadelphie du 25 au 28 juillet. L'adversaire républicain pour la présidentielle du 8 novembre est connu depuis un mois, Donald Trump. L'affrontement entre une femme et un homme d'affaires sans expérience politique serait sans précédent dans l'histoire américaine.
Cap maintenant sur l'Afrique. La lutte contre Boko Haram au Niger, l'attaque massive du groupe djihadiste nigérian la semaine dernière contre la ville de Bosso dans le sud-est du pays a déplacé quelques 50 000 personnes, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La majorité des déplacés ont fui à pied en direction de la ville de Toumour, à 30 km à l'ouest de Bosso, a déclaré Adrian Edwards, un porte-parole du HCR. D'autres déplacés se dirigent vers Difa, à 140 km à l'ouest de Bosso, ou bien Kabelawa, au nord de Bosso, où se trouve un camp pouvant abriter 10 000 personnes, qui est déjà presque complet, a précisé le porte-parole. Un deuil national est en cours au Niger. Plus de détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Un deuil national de 3 jours démarre ce mardi. Le gouvernement indique que la ville de Bosso est totalement sous contrôle, contrairement aux informations qui ont fait état du retour des éléments de la secte Boko Haram juste après le passage de la délégation du ministre dans la ville de Bosso. Information pourtant confirmée par plusieurs sources locales, notamment le maire de la localité de Bosso. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Nigeria voisin est confronté à un nouveau groupe rebelle en plus de Boko Haram. C'est la force conjointe de libération du Delta du Niger. Eric Manirakiza.
C'est dans un communiqué que le conseil révolutionnaire de ce groupe rebelle, issu de la région pétrolière du Delta du Niger, a déclaré la guerre contre le Nigeria. La force conjointe de libération du Delta du Niger promet de viser toutes infrastructures construites avec l'argent du pétrole, dont la présidence et plusieurs bâtiments officiels d'Abuja. Les sièges des grands groupes pétroliers étrangers, des installations de l'armée et la banque centrale sont également dans le viseur des rebelles. Récemment, plusieurs attaques revendiquées par les vengeurs du Delta du Niger et notre mouvement rebelle ont pris pour cible des installations pétrolières. Ce groupe a demandé l'union des rebelles tout en les invitant à s'abstenir de toute action qui mettrait des vies en danger. Le Nigeria connaît une chute de production quotidienne du pétrole de 800 000 barils à cause de ces attaques. Le président Muhammadu Buhari a ordonné un dispositif de sécurité renforcé dans le Delta pour tenter de contrer ces attaques, mais cette approche est jugée inefficace par son prédécesseur, Goodluck Jonathan.
Place maintenant à l'Afrique centrale. Au Congo-Brazzaville, le POUL va recevoir une mission conjointe d'évaluation humanitaire du gouvernement et des agences onusiennes sur place. C'est pour chiffrer les besoins et convenir du soutien à accorder aux victimes des opérations militaires contre les hommes du pasteur Tatan Toumi. Nous retrouvons Eric Manirakiza.
Cette mission d'évaluation va durer 7 jours. Il s'agit du premier déplacement du système onusien dans le POUL depuis le 4 avril dernier, le début de violents affrontements qui ont entraîné une situation humanitaire préoccupante. L'armée de Sassou Nguesso a utilisé des hélicoptères pour bombarder les centres de commandement du pasteur Ntoumi. Ces opérations ont aussi touché les écoles, selon Amnesty International et l'Église catholique congolaise. Le ministre Antoinette Dinga Diondo, ayant l'action humanitaire dans ses attributions, a dit que 3000 personnes se cachent encore dans les forêts. La mission des pêchers devra déterminer les réticences qui retiennent les déplacés en dehors de leur ménage et mettre des recommandations pour l'aide à déployer dans le pôle en termes des besoins humanitaires avec une estimation chiffrée des besoins sectoriels. En revanche, rien n'est indiqué sur le sort du pasteur Ntoumi sous le coup d'un mandat d'arrêt après avoir perdu son poste de délégué général à la promotion des valeurs de paix.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Gabon, on connaît maintenant les dates de la prochaine élection présidentielle. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Jean Rovis Dabani.
Les autorités gabonaises ont fixé lundi les dates du dépôt des candidatures et de la campagne électorale. Selon un communiqué de la Commission nationale électorale autonome et permanente, CENAP, lu à la télévision nationale. La présidentielle gabonaise aura lieu le 27 août prochain. La campagne, qui durera 2 semaines, s'ouvre le 13 août pour s'achever le 26 août à minuit, précise le document. En tout, les acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin disposent de moins de 90 jours pour tenir les délais. La période de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle est fixée au 12 juillet. Plusieurs ont déjà annoncé leur candidature ou investi par leur formation politique. Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009 lors d'un scrutin contesté, a été investi par le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Il y fera face à ses anciens camarades du gouvernement, dont Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, et Guizou Bandama, qui a démissionné du poste du président de l'Assemblée nationale, fonction qu'il a occupée pendant près de 20 ans. La veille, un autre opposant à M. Bongo, Casimir Oyemba, cadre du parti créé par André Mbaobam, a été investi par cette formation politique, aujourd'hui divisée. Plusieurs autres candidats ont aussi annoncé qu'ils s'est présentés en indépendant. Libreville, Jean-Rovis Dabani, Veillou Afrique.
Au Burundi, les 11 élèves âgés entre 13 et 19 ans du lycée de Mugambya, accusés d'outrage au chef de l'État et emprisonnés, seront privés de liberté le temps que la justice se prononce sur leur cas. Ces élèves avaient gribouillé des photos du président Pierre Nkurunziza dans leur manuel scolaire. Les précisions de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Pour la maman d'un enfant qui est en 9e année, il faut que ses enfants soient libérés.
Nous demandons que nos enfants soient libérés et aillent passer les examens.
Et pour le gouverneur de la province de Mugambya, Emmanuel Niondiko, les parents des enfants de cette ancienne province monarchique n'encadrent pas suffisamment leurs enfants.
Après Dieu, c'est le roi. Aujourd'hui, le roi du Burundi, c'est le président. C'est-à-dire le respect du roi, le respect du président doit être une rigueur dans le monde entier, plus particulièrement dans notre pays, le Burundi. Alors, après avoir réalisé ça, nous avons constaté que les parents n'ont pas pu peut-être remplir leur mission noble d'enseigner les enfants les valeurs qui doivent cultiver les jeunes aujourd'hui, parce que ce sont eux, tu es responsable de ce pays.
Pour un des avocats de la défense qui a requis l'anonymat, le gribouillage devient un délit punissable par le code burundais quand il est écrit et ou verbal. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La crise migratoire maintenant, un chiffre qui retient notre attention ce soir. Depuis 2014, plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Bagassikoura, vous avez d'autres détails ?
Pour le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Genève, qui donne ce bilan, il s'agit d'un chiffre horrible. En 2014, il y a eu 3 500 morts en Méditerranée. L'an dernier, 3 771, auxquels s'ajoutent 2 814 décès depuis le début de cette année. Depuis 2014, le chiffre des décès en mer Méditerranée ne cesse d'augmenter, a indiqué le porte-parole à l'AFP, pour arriver à plus de 10 000, un seuil dépassé, dit-il, au cours des derniers jours. De son côté, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui ne dépend pas de l'ONU mais qui est basée à Genève, estime que depuis le début de l'année 2016, il y a eu 2 809 morts en Méditerranée, à comparer avec 1 838 morts durant le premier semestre 2015. En date du 5 juin 2016, poursuit l'OIM, 206 400 réfugiés et migrants sont arrivés en Europe par la mer, via la Grèce, Chypre et l'Espagne depuis le début de 2016. Aucun décès n'a été signalé en Méditerranée depuis samedi dernier.
Pour terminer, en Ouganda, le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en février pour un cinquième mandat à l'élection 10 à l'issue d'élections controversées, a nommé sa propre épouse au poste de ministre de l'Éducation et des Sports dans le cadre d'un remaniement de son gouvernement. Janet Mousse est venue occuper depuis 2011 le poste de ministre en charge du Karamoja, une région déshéritée du nord-est de l'Ouganda.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.